Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de cette avant-dernière émission hebdo de la saison, nous allons consacrer notre coup de cœur ciné à la sortie du film de Pierre Jolivet, Les Algues Vertes, avec Julie Ferrier qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes. En fin d'émission, nous parlerons également d'OPJ, le prochain Prime, ça sera jeudi sur France 3. Cette occasion, Nathan Delem et Barbara Cabrita seront nos invités. Patrick Chenet également sera au théâtre à la rentrée, sera également au Salon du Livre de l'Île de Ré, ça sera début août. Eh bien, nous allons en parler avec lui, non seulement de son livre et de sa rentrée théâtrale. Et puis on va parler des séries quotidiennes avec Kader, celui qui joue Nathan dans Demain nous appartient, sera avec nous et nous dira tout sur son personnage. Catherine David-Zenka y viendra également nous parler d'Ici tout commence, interprète d'Hortense, nous dira tout aussi. Et puis pour Ainsi grand soleil, c'est Alika Del Sol qui vient de faire son arrivée dans la série. Et bien justement, Alika, dans le rôle de Karine, viendra aussi tout nous dire sur son rôle. Vous l'avez compris. Et bien on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au film Les Algues Vertes qui sort mercredi au cinéma, un film de Pierre Jolivet avec un casting absolument magnifique, un film nécessaire, militant, engagé, qu'on va défendre aujourd'hui avec Julie Ferrier qui est notre invitée. Bonjour Julie.
Bonsoir, bonjour.
Merci d'être avec nous, Julie Ferrier. Tu incarnes le rôle de Rosie dans ce film qui est la femme d'une des victimes justement de ces algues vertes. Mais si on revient un peu à la genèse du projet de Pierre Jolivet et ces algues vertes, quelque chose d'assez méconnu, qui franchement est cherché à être étouffé par l'État, hein, il faut pas se cacher. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Qu'est-ce qui t'a fait y aller tout de suite, Julie?
Le fait d'avoir déjà travaillé avec Pierre. J'avais tourné déjà dans un de ses films il y a 5 ans, Jamais de la vie, aux côtés de Olivier Gourmet. Et j'avais adoré travailler avec cet homme. Il est vraiment tout ce que, en tout cas en tant qu'actrice, ce que j'aime, c'est ce côté pointu dans la direction de l'acteur, de l'actrice, et à chaque fois les sujets, bien évidemment, qui sont des sujets. Jamais de la vie est un sujet délicat et pour moi majeur aussi. Mais c'est vrai que Les Algues Vertes, quand il m'a appelée, au-delà du sujet qui est très fort, l'envie de retourner avec Pierre Jolivet était de toute façon imminente chez moi. Enfin, j'y pensais, j'en avais envie. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle très bien, j'étais dans un autre festival à Vierzon et j'étais avec un ami qui est journaliste, qui s'appelle Stéphane Charby, qui m'interviewait. Et en fait, on retraçait, dans les masterclass, on retrace un peu le parcours de l'acteur, en l'occurrence moi. Et il me parle de Pierre Jolivet, donc je pense qu'il apprécie énormément le parcours et le travail. Et je passe un coup de fil à Pierre, que je n'avais pas appelé depuis des années. Et ça a sûrement été...
Déclencheur ?
Complètement. C'est-à-dire qu'un mois après, Pierre m'appelle en me disant « Je voudrais te proposer un rôle. Vous avez vu le film. » Et c'est vrai que le rôle qu'il m'a proposé est totalement... Quand on me connaît, quand on sait que je fais 70% des films que j'ai pu faire sont du domaine de la comédie. Donc du coup, forcément, c'est un thriller social, militant écolo. Et du coup, de sa part, c'était assez étonnant et j'ai été tout de suite séduite par ce qu'on appelle le pitch, quoi.
Ça met une pression quand on sait qu'on va incarner quelqu'un qui existe?
Oui, bien sûr que ça met une pression, bien sûr.
Comment on le vit, ça? Parce qu'on veut ne pas trahir la personne, évidemment. Est-ce que tu as voulu la rencontrer avant? Est-ce que justement tu n'as pas voulu volontairement? Il y a deux écoles dans ces cas-là.
Exactement, il y a deux écoles. Pierre était génial pour ça parce qu'il nous a, à toutes et à tous, laissé le choix. C'est-à-dire que sur le film, tous les acteurs et actrices, on joue que des personnes qui sont en vie. En tout cas, dans cette histoire, évidemment, puisque moi, je joue une veuve, donc elle a perdu son mari. Hein, donc certains n'ont pas rencontré. Moi, j'ai voulu rencontrer Rosie Auffray et je ne regrette pas.
Pierre Jolivet, un metteur en scène incroyable, Les Algues Vertes, c'est un film nécessaire. On y suit le parcours d'une journaliste, d'une vraie journaliste d'ailleurs, qui est interprétée avec brio par Céline Salette, qui est juste dinguissime aussi dans ce rôle, et qui va aller chercher, évidemment envers et contre tout, et même envers contre les habitants, les agriculteurs qui vont se hisser sur sa route. Et c'est le parcours d'une femme aussi, celui de Céline, qui un courage à toute épreuve, qui va aller jusqu'au bout de ce qu'elle pense, jusqu'au bout de sa conviction, pour dénoncer ses faits, quoi, finalement.
Exactement, et surtout, Inès Leroux, qui avait donc écrit à l'époque une bande dessinée, Les Algues Vertes, hein, tout simplement, et c'est l'adaptation de cette bande dessinée qui a été un succès. C'est horrible de dire ça, parce que d'être le succès de quelque chose qui est...
Qui a tué des gens. Oui. En quelque sorte. Non, mais c'est et aujourd'hui ce film, il est là aussi, oui, peut-être pour ne plus que ça arrive et pour que justement les choses soient mises en plein jour.
Oui, exactement. Au-delà du fait de tuer, c'est la société dans laquelle on est française. C'est terrible. En fait, c'est vraiment le film d'Inès Leroux, quoi. Enfin, qui est vraiment autrice d'ailleurs dans le scénario, évidemment, puisque Pierre, c'est une commande pour Pierre. Hein, c'est 247 films avec qui il a fait à peu près 6 films, qui a pensé à lui. C'est eux qui ont acheté les droits de la BD et qui ont pensé à Pierre pour l'adaptation cinématographique. Et donc après, il a fait tout un travail avec Inès, qui est jouée et interprétée par Céline Salette. Et ce qui est fou, c'est que c'est, je crois, 3 ans, voire 5 ans de sa vie à Inès et qu'elle vit encore là-bas. Et c'est-à-dire qu'elle a quitté la capitale, elle était journaliste à Radio France, elle a quitté Paris et maintenant elle vit en Bretagne, dans cette région, elle est restée là-bas.
Elle a été adoptée pour le coup maintenant par les habitants avec du recul. On va écouter la bande-annonce, on revient juste après avec toi Julie. Les Algues Vertes, ça sort mercredi dans les salles, c'est le nouveau film de Pierre Jolivet, on écoute.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé?
Ouais. D'après ce qu'on sait... Thierry va quitter l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Mais tu tomberas toujours mal.
Lâchez-moi voir ce que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Allez, Les Algues Vertes, ça sort mercredi dans les salles. Julie Ferrier est notre invitée pour en parler. Alors, ce qu'on peut souligner quand même, c'est que Pierre Jolivet, qui est un réalisateur masculin, évidemment, réalise vraiment un film avec des femmes, pour des femmes, pour des combats de femmes aujourd'hui. C'est centré vraiment là-dessus, sur le combat d'Inès, et a mis beaucoup les femmes à l'honneur, justement, dans son casting. On peut souligner Nina Meurice, que moi j'adore en tant qu'actrice aussi, mais vraiment, il y a énormément de femmes qui tournent, justement, sous le regard de sa caméra dans ce film.
Ben, c'est 3 femmes en fait, hein. Celle qui est investigatrice, donc Inès, et puis il y a sa femme, Nina, qui existe vraiment dans la vie en plus, hein. Et Rosie, donc que j'interprète. Et en fait, il s'est rendu compte, c'est pendant le montage du film, Pierre m'en a parlé. Il m'a dit, en montant le film, je me suis dit, ah, je suis en train de faire, au-delà de tout ce que peut être les algues vertes, un film de femmes, avec une protagoniste femme, et avec les deux autres rôles principaux sont des femmes aussi. Et principaux, c'est-à-dire importants dans la narration, parce que évidemment, il y a Pasquale qui a un rôle très important.
Lanceur d'alerte, en quelque sorte.
Exactement. Et il y a une phrase qui est très jolie que dit Pierre, d'ailleurs, par rapport au lanceur d'alerte et aux victimes. Il a dit, pour moi, ce film, s'il doit avoir du succès ou quoi, ça sera vraiment pour les lanceurs d'alerte et pour les victimes. Et les personnes comme Rosie Auffray, qui est veuve, et même si elle a refait sa vie, je suis très heureuse pour elle, parce que c'est pas quand tu perds l'homme de ta vie, c'est pas évident que tu retrouves quelqu'un derrière.
Surtout dans ces conditions-là.
Ouais, et surtout que le film l'a beaucoup remué, le tournage, là la sortie, elle m'écrit tous les deux jours, hein, Rosie Offray, pour qu'on puisse se retrouver sur une avant-première ensemble, parce que je pense qu'elle a aimé notre rencontre, et surtout quand elle a vu le film, elle avait du mal à être objective par rapport au fait de savoir si j'étais dans la vérité de ce qu'elle peut être dans la vie et de ce qu'elle a vécu. Et sa meilleure amie était là, et elle l'a rassurée tout de suite, et elle me l'a dit, hein, elle m'a dit... Ma meilleure amie m'a vraiment dit « Julie, ne te singe pas, elle ne te ressemble pas physiquement, mais elle a pris l'essence de ce que tu pouvais être et de ce que tu es, et elle a respecté et ta parole et l'être que tu es. » Et vraiment, ça me touche énormément, mais honnêtement, c'est grâce à Pierre Jolivet. C'est ce qu'on appelle la direction d'acteur.
Malgré tout, quand je t'écoute... J'ai l'impression, et je pense que Céline Salette, Nina Meurice sont dans le même cas, j'ai l'impression que sur ce film, c'est un film qui va rester vraiment marqué dans ta carrière pour toi, et où tu t'es certainement senti investi d'une mission.
Alors, moi j'ai eu des films comme ça, hein, qui n'ont pas forcément été beaucoup vus, qui ont été très importants pour moi, mais je pense que Les Algues Vertes en fait partie. C'est-à-dire qu'il en fait partie, pourquoi ? Dans ma vie, il y a 3-4 films majeurs. Ma rencontre avec Jean-Pierre Jeunet, un film un peu comme ça, très fantasque, Micmac à Tire-Larigo. La rencontre avec Jean-Pierre Marielle, qui après donnera La Fleur de l'âge, qui restera un film extraordinaire, que j'adore, très sensible. Et puis après, il y a eu L'Arnaqueur, un succès populaire, dans un film assez élégant, qui n'est pas un film que moi... Enfin, un genre que je... C'est pas du tout mon cinéma de chevet. Moi j'adore le cinéma de Ken Loach, donc le cinéma de comédie romantique c'est pas du tout mon genre, hein. Moi Pretty Woman j'en ai rien à foutre, je suis désolée de dire ça mais c'est vrai, mais très heureuse et très consciente que ce film est réussi. Il est réussi, L'Arnaqueur, il n'y a pas, tu vois, et je pense que Les Algues Vertes vont s'inscrire de la même manière, en tout cas je l'espère, et j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va être majeur, et c'est tant mieux parce que c'est un film nécessaire, important à tous les niveaux, et on se rend compte que c'est pas le travail des acteurs, c'est pas le travail du metteur en scène, c'est le sujet en lui-même qui est important.
Oui, parce que le sujet va bien au-delà, hein. Attention, aujourd'hui, n'allez pas le voir que si vous habitez au bord de la mer et que vous vous sentez concerné. Aujourd'hui, l'écologie, c'est affaire de tous. Donc aujourd'hui, il faut aller voir partout en France ce film, il est important, parce que ce désastre, en fait, en quelque sorte, que vit la Bretagne, aujourd'hui, aura des répercussions partout, sur tout le territoire. Donc voilà, que tout le monde, en tout cas, aille le voir mercredi au cinéma, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr, et que tout le monde sorte du mensonge. À un moment donné, on ne peut pas vivre des décennies et des décennies dans le mensonge.
Si on devait finir par une phrase qui résume un peu ce film et le devoir que ont les gens à aller le voir, là, mercredi au cinéma.
Je pense que Pierre Jolivet nous raconte que le monde est dur, mais qu'on peut en faire quelque chose de beau.
Et ben voilà, ça serait une belle note de fin en tout cas. On va écouter tout de suite la bande-annonce, un petit extrait encore. Les Algues Vertes, c'est donc mercredi dans les salles.
Des reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens.
Faites attention à vous quand même.
Nous sommes en guerre, Madame Néro. C'est une vraie et grande guerre économique.
Faut que soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
Allez, on marque une pause dans un instant. Adair, Ali Kadelsol, Patrick Chenet, Nathan Delem, Barbara Cabrita, Catherine David-Zenka, tout ce beau monde, c'est dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
I'm feeling alright, baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm
rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va découvrir dans Un si grand soleil et bien un nouveau personnage, le personnage de Karine interprété par Alika Del Sol, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Alika.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Arrivée dans Un si grand soleil, pour le coup, avec ce personnage de Karine, une maman un peu sous l'eau, hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a plu d'abord déjà dans ce personnage, Alika ?
Le rapport avec ma fille.
Maëva ?
Ouais, avec Maëva. C'est très joli parce que c'est une maman qui a élevé seule sa fille et qui pense que sa fille a énormément de talent, enfin qui en est convaincue qu'elle va devenir une grande artiste. Et elle met un peu sa vie entre parenthèses, elle fait tout pour que ça se passe bien pour sa fille, elle bosse. Mais elle le fait avec joie parce que elle n'a pas eu cette chance. Voilà, elle a dû travailler très tôt pour s'en sortir et elle veut que sa fille ait toutes les chances de son côté.
Apparemment pour sa fille, elle va cacher toutes les difficultés, ouais. Et c'est ce qu'on va voir justement auxquelles elle doit faire face, et elle va faire face à une expulsion qui va mal tourner. C'est ce qu'on va voir, c'est toute l'arche qui va arriver justement pour cet été dans laquelle tu es.
Voilà. Et oui, elle est dans le déni, mais c'est positif. C'est vraiment pour aider sa fille, pour que sa fille s'en sorte. Elle veut pas qu'elle ait la vie qu'elle a eue. Voilà.
Alors, tu as partagé pas mal de scènes avec quels comédiens qui vont graviter un peu autour de toi dans cette arche ?
Alors essentiellement avec ma fille, avec donc la Marie Fèvre qui joue Maëva, qui est formidable. C'est son premier rôle et vous allez la découvrir. Elle est formidable.
Et on va découvrir qu'il y a plein de monde impacté hein, autour de cette expulsion. Le personnage d'Yvon Bac, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Arrivé dans une série quotidienne, or t'en as déjà fait, pour le coup, t'as déjà fait Ici tout commence, puisque tu jouais la maman des rivières. Tu connais aussi l'impact que ça a sur le public. Comment t'expliques, toi, Alika, justement, cette notoriété, ce lien fort qui unit justement les comédiens de séries quotidiennes, qui tournent dans les séries quotidiennes, et le public?
Précisément parce que déjà, comme tu le dis, c'est une quotidienne, donc ça passe tous les jours, donc on est vraiment chez les gens, avec eux. Donc ils ont l'impression, on fait partie de leur quotidien. Ils regardent ça tous les jours et donc ça crée un lien très très fort.
Comment tu le vis ça, toi ?
Mais très bien, parce que c'est toujours. Moi je trouve qu'il n'y a pas de. Il y a un côté un peu méprisant souvent, de dire on fait des choses populaires. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire des choses populaires.
Le d'accord.
Public, c'est lui qui nous fait vivre et donc il n'y a aucun mépris à avoir vis-à-vis de ça, bien au contraire.
Bon. Tes projets ? Pour la rentrée ?
Pour la rentrée, là je viens de terminer une série pour TF1, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va passer.
Et qui s'appelle
Mademoiselle Holmes.
Avec Lola Devers.
Absolument. Et puis la suite de Simon Coleman avec Jean-Michel Tignivelli.
Génial, tu fais un guest dans un épisode ?
Non, j'y suis depuis le début, je suis là.
Donc tu restes pour les deux épisodes qui vont arriver bientôt ?
Oui, tout à fait.
Ça aussi c'est un joli succès, Simon Coleman. Hein.
Oui. Voilà, c'est la suite, ça va passer bientôt. On attend.
Eh ben écoute, ça c'est pour l'automne en tout cas, Alika. Merci, on va te découvrir dans le personnage de Karine, dans Un si grand soleil, pendant ce mois de juillet, pendant cet été. Est-ce que tu te vois par la suite revenir dans la série, ou est-ce que c'est prévu que pour quelques temps, quelques mois? Ou est-ce que c'est un personnage qui peut s'installer sur la longueur aussi, le personnage de Karine?
C'est un personnage qui est amené à s'installer.
Eh ben on se revoit très vite du coup.
Très vite.
Merci à toi.
Dieu, quelle horreur.
Vous voyez, vous aussi spontanément, vous évoquez Dieu.
Franchement, les gars, vous êtes sûrs que c'est une bonne idée, ça dégénère.
Ce mec est une perle.
Ouais, une perle terriblement sexy.
Il aurait été gazé de très près. Donc si vous avez des choses à dire, c'est le moment.
Allez, notre invité aujourd'hui, on va parler de Ici tout commence, votre série qui est diffusée du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. C'est Catherine David-Zenka qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors moi, je suis toujours très heureux de recevoir le personnage d'Hortense parce que c'est un personnage que j'adore. C'est même un de mes personnages préférés, je te l'ai dit dès le départ pour le coup. On tombe tout de suite sur le charme de cette jeune fille.
Bah merci, c'est gentil.
Et t'as su y amener quelque chose avec ta touche à toi. Comment tu l'as travaillé justement, ce personnage? On t'a donné une bible, on t'a dit voilà, le personnage est comme ça, comme ça, comme ça, et après tu te l'as approprié totalement?
Non, j'avais pas de bible justement, j'avais très peu d'informations sur elle en fait au tout début. J'avais à peine quelques mots, je crois que c'était jeune femme solaire, qui n'a pas peur de ce qu'elle dit, voilà, donc spontanée, voilà. Donc j'avais pas plus que ça. Et elle est, enfin voilà, je pourrais pas expliquer exactement le processus créatif qui m'a poussée à la faire telle qu'elle est exactement. Mais j'ai eu pas mal d'inspiration de DC Comics, de séries que j'aime bien pour le rythme, de, enfin voilà, plein de petites choses.
Elle amène aussi quelque chose de très émouvant. Parfois, surtout là avec la grosse intrigue qui est passée autour de sa famille et de sa mère incarnée par Sophie Duès, là aussi se retrouver face à une comédienne comme ça, c'est incroyable.
Ah ben c'était quelque chose, enfin avec Sophie ça, je sais pas, ça a matché de manière presque instantanée et
à l'écran aussi, je te rassure.
Voilà, mais je sais pas, c'était assez incroyable en fait, même de l'avoir travaillé elle. La manière, tout était si précis, enfin ça faisait tellement bien d'avoir une personne aussi. Je sais pas, avec tellement d'expérience, de précision. Enfin, c'était incroyable de travailler avec elle. On s'aime vraiment beaucoup dans la vie aussi.
Puis il y a le rapport avec Lou, avec sa sœur, que Lou incarne, qui s'appelle Vic. Ça a été très à couteau tiré. Et la relation s'est vraiment apaisée justement ces dernières semaines aussi, vis-à-vis justement de ce qu'Hortense a vécu avec sa mère, qui tentait un peu de l'empoisonner en quelque sorte pour ne pas qu'elle parte. Pour qu'elle parte avec elle, pardon.
Oui, c'est vrai qu'on a créé justement la relation, je pense que c'est à ce moment-là entre Vic et Lou, Vic et Hortense, que enfin c'est vraiment à ce moment-là que la relation entre sœurs s'est solidifiée dans cette espèce d'affrontement à l'adversité où au final pour la première fois la petite sœur était quelque part là pour la plus grande et on a pris beaucoup de plaisir avec Lou à travailler ça, c'était assez incroyable, ouais.
Et puis on a découvert aussi une Vic un peu moins machiavélique justement et ça c'est bien. Un peu moins manipulatrice.
Et c'est ce qu'on se disait. On se disait que maintenant, c'est comme si son côté un peu machiavélique, justement, n'avait pas disparu, mais il était plus au service du bien. Mmh. Voilà, donc c'est justement son côté un petit peu comme ça qui a permis de piéger leur mère, etc. Donc, en fait, c'est devenu au service de la bonne cause, quoi.
Quand les caméras tournent et qu'on dit action, ta voix se transforme tout de suite ou pas ? Il y a des fois, il faut retravailler un petit peu ça parce que là, t'as pas exactement la même voix dans la série. T'as travaillé aussi un peu ça. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai travail sur le personnage. Ça fait partie intégrante du personnage.
Non, c'est assez instantané. Je sais pas, quand je dois la jouer, elle, ça vient de manière très instinctive finalement. Non, il n'y a pas eu besoin de refaire des prises pour ça en tout cas, mais... Je sais pas, ça va tellement avec elle que je ne peux pas faire Hortense sans faire la voix, donc voilà, c'est pas, ça va ensemble quoi. Et c'est comme ça quoi.
Alors je crois qu'il y a un bel avenir, n'empêche, pour Hortense qui se destine peut-être justement à la rentrée à devenir professeur. Ça c'est dingue aussi, une belle destinée pour le personnage.
Assez fou, oui, complètement fou même. En espérant, vous allez voir de toute façon tout ce qui va se passer derrière, ça...
Il va y avoir des rebondissements, évidemment, tout l'été.
Eh ben oui.
Sinon, ça serait pas une série, ce serait pas marrant.
Tout à fait, oui.
Bon. Il y a un moment particulier pour toi qui a été émouvant, marquant, rigolo, sur une scène ou sur un épisode que t'as tourné pendant ces 3 ans ?
Peut-être sur la dernière année, je pense que j'ai vécu... une expérience de comédie assez forte avec Sophie Duès, justement. C'est en fait la scène où on piège notre mère. Voilà. C'était une scène d'émotion très très forte. On a cherché pendant longtemps l'émotion, comment l'amener, et ça a été une expérience de jeu vraiment forte parce que c'était vraiment pas évident à faire. On a fait cette scène pendant très très longtemps, il fallait rester dans l'état. Lou m'a pas mal aidée aussi par sa présence, même juste physique. Enfin voilà, mais c'était intense quoi.
C'était fort à jouer. T'as des envies particulières, est-ce que t'as des projets ? Pour la suite, on va terminer par ça, mais voilà, est-ce qu'il y a du coup, ça t'a ouvert des portes et que tu vas faire quelques apparitions dans d'autres séries ou au cinéma ou au théâtre ?
Alors là, j'ai tourné récemment dans Kaiser Karl de Jérôme Salle. J'ai fait juste une petite apparition, mais c'était chouette. C'était un moment de break un peu pour moi. Par rapport justement à la série. Et après, j'ai passé pas mal d'essais aussi, donc je suis toujours en attente de réponses, mais ça, c'est notre petit métier de comédien qui veut ça. On verra bien.
Bon, puis ça, si ça peut te permettre justement de t'évader et de sortir du personnage d'Hortense vers d'autres choses, c'est bien aussi.
Tout à fait, oui. Je suis ouverte à tout, de toute façon, moi.
Bon, en tout cas, Catherine, merci d'avoir été avec nous. 3 ans, pareil, hein, d'ici tout commence quasiment bientôt. Ça sera le 2 novembre prochain, cet anniversaire. Et ça fait 3 ans que vous avez commencé le tournage. Donc, c'est une aventure assez dingue avec un succès aussi incroyable et qui se dément pas. Et ça, c'est beau à voir, en tout cas, cette fidélité du public envers vous.
Merci, merci beaucoup.
Et à très vite.
À très vite.
Précédemment.
Ah, alors ouais.
Tu veux que je le fasse?
Je suis chef, je dresse, t'inquiète. En fait, je peux pas gérer le pop-up. C'est pas du tout adapté pour mon fauteuil.
Bah, attendez, c'est votre premier jour. Vous allez finir par prendre vos marques.
J'y crois plus.
Tu vas faire comment pour aller vivre au Japon alors que t'aimes pas être là-bas? Pourquoi t'en parles pas à Greg?
Hortense, lui dis rien.
Ça vous dirait pas qu'on mette nos têtes dessus?
Ah non, si on a dit non aux figurines sur la pièce montée, c'est pas pour ajouter nos gueules sur des chocolats, ok?
Il déteste le Japon, il déteste être là-bas, il n'oserait jamais te le dire.
Et tu vas la fermer? Dégage, je veux plus te voir.
Allez, tout au long de l'été, on va passer l'été avec nos séries quotidiennes. Évidemment, pas d'arrêt, hein, pour Demain nous appartient. Et on a la chance d'avoir notre ami Adair qui nous a rejoint. Bonjour Adair.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien. Un personnage de Nathan, mais que tout le monde aime tellement. Je crois que t'as réussi à tellement rendre ton personnage attachant qu'aujourd'hui, tes spectateurs peuvent plus se passer de toi, dis donc.
Ah bah ça fait plaisir, merci, parce que c'est vrai que d'un point de vue, on n'a pas ce point de vue extérieur, donc on le sait par rapport un petit peu aux gens, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Et puis on peut dire qu'il en a vécu des aventures. Les scénaristes sont très inspirés par le personnage de Nathan, puisque ça y est, on lui a découvert une famille, une sœur. On a découvert son père joué avec brio par Kevin Levy aussi. Ça t'a fait du bien justement un peu de sortir des scènes de lycée, des scènes de Spoon pour jouer aussi des scènes familiales, plus aussi dans l'émotion.
Ça fait du bien parce que ça permet de voir autre chose, ça permet de jouer d'autres émotions. Ça permet d'aller dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Parce que moi, c'est vrai que depuis le début de la série, je faisais beaucoup de comédie. Et avec l'arrivée de mon père et de ma sœur, ça casse un petit peu ce personnage un peu que drôle. Et je pense que c'est ce qui le rend attachant aussi. C'est que du coup, on sent la souffrance de ce personnage aussi à travers ses blagues et ses rires en permanence, quoi.
Il a une carapace, Nathan, justement, qu'il essaie de faire passer tout le temps par le rire. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui se fait une carapace pour pas montrer justement peut-être des fois sa tristesse et des choses comme ça, quoi.
Ouais, parce que c'est un personnage, je pense, qui a beaucoup d'ego. C'est un personnage qui aime pas trop montrer ses émotions aux gens, que ce soit à sa famille ou à ses amis. Et ouais, il se construit une carapace. En vrai, j'ai envie de dire un peu comme dans la vraie vie, on se construit tous plus ou moins une carapace pour éviter de trop souffrir ou pour se protéger, quoi. Donc je trouve que c'est vachement représentatif de la vraie vie.
On t'a découvert une sœur très chouette, super comédienne, qui joue Julie.
Ouais, elle, c'est Lou. Gros bisous à elle. Fille très chouette, qui s'est très vite adaptée, qui est à l'écoute, qui propose des choses aussi. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une grande sœur. Ouais.
Alors, il y a des scènes d'émotion, pour le coup, avec Kevin Levy. Quand on connaît un peu le garçon, on imagine que des fois, ça doit partir un peu en fou rire quand même, alors qu'il faut garder l'émotion. Est-ce que vous restez concentré? Ou est-ce que des scènes qui sont parties en freestyle quand même, un peu entre nous deux?
Alors, les scènes d'émotion particulièrement, on se le dit avant, on se concentre. On se laisse pas la place à
la rigolade.
Voilà, à la rigolade. On se fait pas de vannes. Ou des fois, on essaye parce que c'est un peu plus fort que nous parfois. Mais parce qu'on a une très bonne complicité. Mais c'est vrai qu'on essaie de rester concentré au maximum quand on a les scènes d'émotion pour que ça soit le plus juste possible. Et puis pour nous aider. Mais sinon, oui, dans certaines séquences... où on n'est pas dans l'émotion, c'est parfois parti en fou rire, à plus pouvoir s'arrêter. Non, c'était des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs.
Quelles évolutions tu aimerais pour ton personnage? Je te parle pas de celles qui vont arriver, mais vraiment que tu aimerais peut-être à l'avenir.
Bah, moi j'aimerais que mon personnage il devienne peut-être un peu plus homme maintenant. Dans la série, j'ai 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans. Voilà, j'ai fait un beau parcours, j'ai commencé pickpocket, le bac, maintenant je travaille. Ouais, j'aimerais qu'il devienne un peu plus adulte, qu'il se passe des choses un petit peu plus d'adulte, malgré quand même de garder mon côté un petit peu, on va dire, enfantin. Parce que je pense que c'est le personnage qui est comme ça et c'est important de le garder. Mais ouais, un petit peu, avec des histoires un petit peu plus d'adultes.
Quelque chose qui m'a fait rire, évidemment, c'est qu'il essaie de trouver l'amour et c'est un peu le loser quand même là-dessus, sur le coup. Et jusqu'à l'arrivée du personnage de Luna, on a l'impression qu'il tombe amoureux en 2 minutes 30, en fait, hein, Nathan.
Ouais, même en 3 secondes et demie, genre, il tombe très vite amoureux parce que, en fait, c'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un de très sensible et, en fait, dès qu'il s'aperçoit qu'il peut plaire, en fait, à une personne, et ben, pour lui, c'est l'apothéose. Donc, forcément, il fond, quoi.
C'est ça qui est chouette. Et avec le personnage de Luna, c'était vraiment, très drôle. Et à la fin, on avait de la peine pour lui, quoi, quand elle est partie comme ça.
Et ouais, bah oui, ça fait de la peine parce que c'est vrai que on se dit, ah, ça y est, il a enfin réussi à trouver la fille qui lui correspond. Et en fin de compte, on se aperçoit que pas du tout, elle voulait juste un petit coup comme ça. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça montre que, parce qu'on va pas se mentir, souvent c'est l'inverse dans la vraie vie, c'est les hommes qui sont un peu comme ça. Et là, le fait que ça soit le contre-pied, je trouve ça intéressant aussi de voir que, bah, qu'il y a des filles aussi qui existent comme ça et que, bah, en fait, ça peut blesser une personne, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est très très chouette. Alors, pour cet été, on va te retrouver à la Payotte, j'imagine. Qui a été démonté, on spécifie, parce qu'il y a toujours 2 mois de décalage avec le tournage, donc ne la cherchez pas sur la plage des 3D, c'est pas la plaine, puisque là, elle vient tout juste d'être démontée, mais t'as pas mal de scènes à la Payotte, toi, cet été ?
J'ai pas mal de scènes, oui, comme toutes les années, hein, j'ai pas mal de scènes. Ça va être des scènes différentes des autres années, quoique il y a quelques scènes qui se ressemblent aussi. Mais ouais, on va me voir à la Payotte.
Bon. Pour la saison prochaine, t'as déjà un peu des idées de fil rouge, de comment justement ils voudraient faire évoluer ton personnage ?
En vrai, moi-même, je suis encore un peu dans le flou dans ce qu'ils veulent me faire faire. Je sais pas encore si je vais avoir de copines, je sais pas. Déjà, dans un premier temps, je pense que je vais rester au Spoon, là, avec Mona aussi, duo très...
C'est très drôle aussi, votre duo à tous les deux. Et puis, on voit que le personnage de Mona, qui est tellement attachant, Catherine Benguigui, est juste incroyable. Et on voit cette alchimie qu'il y a entre vous deux, qui transperce l'écran, on a vraiment l'impression que c'est ta maman, quoi. Là.
Mais en fait, en dehors des scènes, c'est un peu ma maman. On se considère un peu comme ça, on s'adore, enfin... On s'appelle frérot, mais oui, c'est un peu comme ma mère, et on a une très bonne complicité. Et je pense que c'est quand on joue ce genre de situation, je pense que c'est important d'avoir cette complicité-là, parce que ça facilite les choses. Il faut être vachement à l'écoute. Le rythme, s'il est pas bon, c'est très compliqué d'être crédible et d'être drôle, donc le rythme est très important. Et pour ça, faut être très à l'écoute de son partenaire, parce que on a un texte, mais elle comme moi, on sort beaucoup du texte. Et si on n'est pas à l'écoute, et ben en fait, on peut pas savoir quand est-ce que l'autre a fini de parler ou c'est à qui de parler, etc. Donc faut vraiment être à l'écoute. Bah, c'est un peu la base du métier de comédien, être à l'écoute, mais voilà.
Elle est à l'écoute de son partenaire, c'est vrai, c'est clair. Adair, est-ce que t'as des projets autres que Demain nous appartient ? Est-ce que t'as déjà des portes qui sont en train de s'ouvrir un peu grâce à cette série ?
Bah, ça commence un petit peu là, on va m'apercevoir sur une série Canal+, mais alors très vite fait. Mais voilà, je vais faire une petite apparition dedans. Voilà, après hein, je passe des castings, on verra bien, on croise les doigts comme on dit. Inch'Allah, et puis les réseaux sociaux toujours, hein, TikTok, Instagram, YouTube aussi maintenant, donc voilà, on essaye.
Avec ta maman.
Ouais, toujours avec ma mère.
Bon, vous pouvez suivre hein, d'ailleurs Adair, A-D-H-E-R sur tous les réseaux sociaux, il est très actif en plus, hein, n'hésitez pas à aller le voir et aller découvrir ses vidéos qui sont toujours évidemment très très drôles et pleines de tendresse avec sa maman.
Ouais, vous pouvez venir voir, ça vous fera rire.
Merci à toi d'avoir été avec nous et puis on te retrouve évidemment du lundi au vendredi à 19h10 dans Demain nous appartient sur TF1.
Eh ben merci à vous pour l'invitation. Bisous, ciao ciao.
Précédemment.
Il est où le doudou souris ?
Doudou souris, il est là.
Ah, lui pour les gosses, il est archi prêt.
Celle-là, tu penses que je ferai à mon papa ou pas ?
Non.
Mais il est où ce foutu doudou ?
Sans ce truc, elle mange plus, elle dort plus, elle vit plus. Tu vas me le retrouver, hein, fissa.
Morgane a fait une tentative de suicide. Je réalise à quel point elle compte pour moi.
Ça n'a pas été évident pour toi de la quitter.
La seule chose qui compte, c'est que tu sois en vie.
Tu penses qu'elle aurait reçu l'antidote avant qu'on lui donne ici ?
Elle n'a jamais voulu mourir.
Ok, j'ai menti, c'est vrai, mais t'en as rien à foutre du mal que tu me fais.
Sauf que moi, je te manipule pas. Mais cette famille, apparemment, c'est comme ton frère.
Je t'interdis de me comparer à Franck. Comment tu peux me faire ça ? C'est dégueulasse !
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré bien sûr à OPJ avec le deuxième prime qu'on attend avec impatience jeudi. Et Nathan Delem justement est avec nous pour en parler, qui joue le rôle de Jackson. Et merci d'être avec nous, Nathan.
Bonjour, et puis bah, enchanté, hein, merci de me recevoir.
Ben oui, sur ce petit moment qu'on va passer ensemble pour parler justement ouais. De ce deuxième prime événement d'OPJ. On le disait la semaine dernière justement avec Yael, c'est un peu la Madeleine de Proust qu'on a plaisir à retrouver tous les étés comme ça. Et une série qui sent bon le sable chaud évidemment et le soleil sur teinte évidemment d'enquêtes policières, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et puis ce petit cadeau qu'on a tous les ans, deux prime time événements avec des guests. La semaine dernière, eh bien, vous avez pu voir Ariel Mallet et aujourd'hui, eh bien, jeudi, ça sera celui de Barbara Cabrita, où tu joues du coup un gros rôle hein, sur justement ce deuxième prime. C'est plutôt ton personnage parmi
exactement.
Les quatre, et parmi celui de Gaspard, de Clarissa, justement, ou encore de Kelly et Taya. Ça va être le tien qui va être plus en confrontation avec le personnage joué par Barbara Cabrita, qui est Bianca. Hein.
Exactement, Bianca Loretti. Et voilà, et j'ai la chance de l'accompagner sur ce prime pour former un duo un peu atypique au début. Et puis voilà, une très belle rencontre et je l'espère un beau prime qui plaira en tout cas.
Mais j'en suis sûr puisque Bianca va rester bien des secrets qu'il va essayer de tenter de découvrir. Mais en tout cas, la première approche entre les deux est compliquée quand même, hein.
Un peu tendu, on peut le dire, ouais.
Elle est carrément en dedans.
Ouais, c'est un peu, on va dire, l'opposé de Jackson, quoi, qui est un peu plus carré, et elle est un peu plus, on va dire, olé olé. Voilà, des méthodes un peu
atypiques par moment.
Différentes. Ouais. Voilà, ouais, exactement.
Alors justement, c'est la capitaine qui va venir enquêter avec vous, puisqu'il va y avoir un mystère qui va arriver. Ça va être des photos volées d'elle et de sa famille à Bianca, qui vont être retrouvées sur l'ordinateur d'un pédiatre assassiné. On va plonger justement un peu dans le monde de la pédophilie, hein, dans cet épisode un peu. Hein.
Ouais. Et puis, je pense que c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'a pas touché depuis le début.
Ouais.
Et voilà, et qui permet de parler aussi de ces choses-là et de tourner un peu sur l'univers de la famille, des enfants et de tout ce qui peut se passer autour de ça, quoi.
Tu prends toujours autant de plaisir, on le sent, à jouer Jackson. C'est la quatrième saison que là on va découvrir cet été, mais il faut savoir que tu es déjà en train de tourner la cinquième. Donc c'est un succès qui ne se dément pas. Les primes font un carton énorme. La diffusion en journée, qui pour moi un peu un gâchis quand même en quelque sorte, fait de très bons scores après en replay également sur le site de France.tv. C'est une série qui marche très très bien, y compris dans les dom-tom. C'est ça aussi la particularité d'OPJ.
Ouais, ben après effectivement on a la chance d'avoir une très belle audience, donc c'est ce qui nous permet de continuer à exister parce qu'on part de loin quand même, hein. On a démarré avec une quotidienne et on en arrive là au jour d'aujourd'hui. Et voilà, et on arrive à se défendre sur les primes avec des guests qui viennent nous rejoindre et des guests de plus en plus demandeurs. Donc pour nous c'est super. Puis ça nous permet d'apprendre aussi énormément en travaillant avec eux. Puis voilà, il y a une belle notoriété sur les dom-toms. On le voit quand on vient tourner ici. À chaque fois qu'on revient, on est super bien accueillis. Les gens nous aiment bien la série, nous reconnaissent. Donc c'est très sympa. Et effectivement, comme tu dis, on prend toujours autant de plaisir à bosser sur ce projet, quoi.
Et oui, il faut dire que la production, il tourne depuis plus de 10 ans, puisque c'était déjà production qui était justement la production de Cut à La Réunion. Donc c'est vrai que c'est des habitués de Lille et que évidemment La Réunion est toujours fière d'accueillir. Justement, si on parle un peu du tournage là-bas à La Réunion, on imagine évidemment que le cadre est agréable, mais c'est également surtout un rythme de tournage très soutenu. Vous mettez 18 épisodes de 52 minutes en 3-4 mois max.
Ouais.
C'est hyper rapide, hein. Faut savoir qu'en temps normal, on est plus sur quasiment 9 mois, logiquement.
Ouais, non, c'est clair. Là, c'est extrêmement compressé. On tourne à 2 équipes, voire même 3 équipes, si je compte l'équipe qui s'occupe de faire un peu tout ce qui est mood, décor, tout ça. Ça fait l'équivalent de 3 équipes. Et voilà, on navigue tous les jours entre ces 3 équipes. Ça fait énormément de personnes qui travaillent. Et puis, c'est vrai qu'on a des horaires où on démarre les journées à 5h30, 6h le matin pour certains jours, jusqu'à 17h. 18h, et puis après des fois il y a des mix, tout ça, donc non c'est une grosse fréquence de travail, mais après on n'a pas le choix si on veut réussir à rentrer tous ces épisodes dans le temps imparti, quoi, c'est-à-dire 3 mois, ouais, effectivement.
Alors si les personnages de Jackson et de Kelly se sont tournés autour quand même pendant quelques temps, quel va être un peu le fil rouge de cette quatrième saison autour du personnage de Jackson?
Eh ben, ils approfondissent un petit peu leur histoire. Kelly a dû un peu s'absenter, donc ça les téléspectateurs vont le découvrir. Et Jackson doit un peu naviguer entre Kelly Tuimank et puis sa vie personnelle ici, son travail et puis son ex copine qui gravite toujours un peu autour de lui. Voilà. Sans trop vouloir en dire.
C'est joliment dit. Et puis Marielle Carabeu, qu'on embrasse évidemment, qui s'est absentée pour la bonne cause l'année dernière du tournage, pour un heureux événement.
Exactement.
Donc on lui souhaite tout plein de bonheur, en tout cas.
Ouais.
Si elle n'est pas loin
et
de toi.
Qui
voilà.
qui nous a rejoint actuellement pour la 5e saison, donc qui est là avec nous là ce soir.
C'est donc, génial.
Elle sera de retour pour la prochaine.
Bon. Ouais. Et ben en tout cas, on vous embrasse tous. Tu embrasses Antoine, Yael, qu'on a eu la semaine dernière, voilà. Et puis OPJ, on va pas manquer évidemment ce deuxième prime avec Barbara Cabrita notamment. Et puis évidemment, on va retrouver toute cette joyeuse équipe autour de ce prime événement jeudi à 21h10 sur France 3. Merci beaucoup, Nathan.
Merci, Alain.
Et on se dit à très très bientôt.
À très bientôt, je te remercie, bonne soirée.
Bon, j'ai eu le substitut et le commandant du vivier de la BPF, donc c'est bon, c'est réglé, c'est bien notre brigade qui est en charge de l'enquête, avec le lieutenant Belle-Rose en enquêteur principal.
Yes.
Oui, enfin, tu diriges l'enquête avec l'appui de la capitaine Moretti, dont la brigade a été co-saisie à titre exceptionnel.
Quoi ?
Mais alors, c'est vraiment à titre exceptionnel.
Attends, je comprends pas. On a retrouvé une photo d'elle sur l'ordinateur de la victime. Elle peut quand même pas bosser sur une affaire qui la concerne personnellement.
Bah au contraire, si on trouve le lien entre la victime et moi, ça peut que nous aider.
Je te rappelle qu'elle a volé un scellé sur une scène de crime.
Non. Il me fait venir sans rien m'expliquer. Il y a une photo de moi sur l'ordi et il me vire.
Et alors ?
Voilà, OPJ, nouvel épisode à ne pas manquer évidemment jeudi sur France 3 pour notre plus grand plaisir. Et puis en guest, chose promise, chose due. Elle est là avec nous en direct du tournage justement de Rivière Perdue dans les Pyrénées. C'est Barbara Cabrita qui nous rejoint. Bonjour Barbara.
Bonjour tout le monde.
Ah, ça n'a pas été facile de trouver le créneau, mais ça y est, on y est. Tu y joues le rôle de Bianca Loretti. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Jackson, ça se frite, hein. Et ça y va pas de main morte.
C'est un peu chien et chat, effectivement. Mais on aime bien ça, hein. On aime bien et le vivre et le regarder. Donc, ça tombe bien.
C'est vrai que c'est très agréable à regarder vous chamailler, en fait. T'as entièrement raison
c'est
là-dessus.
C'est très agréable à faire.
Qu'est-ce qui t'a plu, justement, dans ce rôle de Bianca Loretti?
Oh, bah, elle a sa manière de faire les choses. Elle est instinctive, elle est très spontanée. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, parfois, ça peut déplaire, mais c'est toujours fait avec amour, quoi. C'est pas quelque chose de, c'est pas de l'insolence, c'est pas quelque chose de gratuit, c'est sa spontanéité à elle. Et j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie. Elle a sa logique.
Et donc, logique, elle va tenter de faire inculquer à Jackson, évidemment.
Ah oui, elle va vraiment s'amuser à essayer de le décoincer un peu, ce Jackson. Donc, avec elle, il est un peu déstabilisé et il sait pas trop quoi faire et elle en a conscience et en même temps, elle en joue pas non plus. Donc, quand il s'agit d'aller un petit peu plus loin dans leur relation, elle en joue dans l'enquête et dans tout ça, mais après, elle se laisse un petit peu aller à son propre piège.
Alors, OPJ, c'est une série, on le disait avec Yael il y a quelques jours aussi, c'est un peu notre Madeleine de Proust qu'on aime retrouver chaque année comme ça. Toi, comment tu t'es senti justement sur le tournage, un tournage à La Réunion, justement, ça a dû te dépayser un petit peu. Mais qu'est-ce que tu garderas comme souvenir principal de ce tournage sur OPJ ?
Moi, vraiment, ce qui m'a énormément touchée, c'est humainement. Alors, Yael est une personne exceptionnelle. Vraiment, elle est lumineuse, elle est hyper accueillante. Nathan, c'est la même chose. En fait, toute l'équipe a été super. Et ce qui a été très beau pour moi à découvrir aussi, c'est la raison pour laquelle on fait ce métier-là. C'est un métier de troupe aussi. Et tourner comme ça pour eux pendant 4 mois, moi, je suis restée 1 mois là-bas, mais j'ai vu la manière dont ils vivaient, c'est tous ensemble, c'est une vraie collectivité, et puis les enfants sont là, leurs enfants sont à l'école, donc c'est se retrouver sur la plage le soir de temps en temps pour un apéro avec tous les enfants, avec les parents, les conjoints, et je trouve que ça c'est très beau, et d'avoir partagé ce moment de vie avec eux, ça m'a fait et beaucoup de bien. Et en même temps, ça m'a fait me dire que on faisait vraiment un métier assez exceptionnel et que si on pouvait le faire tout le temps dans cette ambiance-là de bienveillance, d'accueil et de partage, ce serait vraiment génial.
Ben oui, c'est clair. Alors, Jackson, justement, et Bianca vont devoir enquêter ensemble. Et le problème, c'est que Bianca va être complètement, justement, à l'intérieur de cette enquête, puisqu'on va retrouver sur l'ordinateur d'un pédiatre qui a été assassiné des photos d'elle et de sa famille. Alors, pourquoi, comment elles sont arrivées là? Et pourquoi, surtout, s'intéressait-il à elle et à sa famille? C'est cette enquête que vont mener de front, justement, l'équipe de l'OPJ 974 et Bianca. Ils vont devoir la mener ensemble. Voilà, donc c'est ce qui va créer, évidemment, quelques petites frictions. On va parler de tes projets, Barbara, puisque tu es en ce moment sur Rivière Perdue, dans les Pyrénées, aux côtés de Jean-Michel Tinivelli. Il y a du beau monde, je sais, autour de toi, et c'est une prochaine grosse série, je crois, pour TF1.
Oui, c'est l'adaptation d'une série, d'un livre qui s'appelle Monte Perdido, d'un livre espagnol. Ensuite, il y a eu une série en Espagne, et là, donc, on fait l'adaptation française. C'est produit par Terence Film et on avait déjà fait Les Innocents avec eux sur TF1. Et là, c'est une super grosse aventure dans les montagnes avec une histoire vraiment, vraiment géniale. Et il y a Jean-Michel Tinivelli, il y a Nicolas Gobbe aussi qui est là, qui nous rejoint. Et puis Odile Villemin, Anise M, Bruno Debrant, on est très bien servi.
Ouais, et puis je vois que les producteurs d'OPJ, du coup, t'ont ramené là sur Rivière Perdue, du coup, puisque c'est les mêmes.
Exactement, les mêmes producteurs qu'OPJ, que Les Innocents, effectivement, ouais.
Rivière Perdue, en tout cas, bientôt sur TF1. Et puis jeudi, évidemment, on va découvrir ce deuxième épisode en prime d'OPJ. Ça s'appelle Bianca. Et je vous dis, ne ratez pas ce rendez-vous. D'une, ça va vous dépayser, ça va vous faire du bien. Et puis, on va avoir une super enquête en plus dans des paysages magnifiques. C'est jeudi à 21h10 sur France 3. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir réussi à te libérer quelques minutes pour nous.
Merci à toi.
On t'embrasse, à très vite.
Moi aussi, ciao.
Allez, bougez pas, on termine l'émission avec Patrick Chenet dans un instant dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. L'arme est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Tous tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, pour cet été, eh bien, on va parler théâtre pour la rentrée aussi avec un des plus grands acteurs de cinéma français qu'on a toujours plaisir à recevoir, en tout cas dans Chut, on écoute la télé, monsieur Patrick Chesnais. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après une petite incursion aux côtés de Julie Debonnat dans l'école de la vie au printemps dernier, Patrick, c'est au théâtre que vous allez sévir au théâtre Montparnasse à partir de la rentrée, aux côtés d'un autre ami d'émission, Nicolas Briançon, qu'on embrasse également, et mis en scène par Dominique Guyot. Et ça s'appelle Le Mystère Sony. Ça va être un automne bien occupé, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est sûr que ça va. Bah, d'abord, c'est la pièce, et puis. Oui, il y aura des tournages et tout ça. Enfin, comme d'habitude, j'aurais presque envie de dire. Et puis, je continue, j'écris un livre, vous savez, qui a l'air de se comporter très bien au point de vue des ventes. Donc, je vais continuer à faire beaucoup de festivals de livres et de salons, etc. Donc, tout ça, ça occupe. Parce que ce qui est bien avec les salons de livres, c'est qu'on rencontre les gens, on discute avec eux. Ils viennent vous acheter le livre, donc on fait des dédicaces. Et j'aime bien ces échanges. Les gens sont contents d'échanger moi avec moi, et moi je suis content d'échanger avec eux.
Donc ça en fait bien. Cet été d'ailleurs, Patrick, des salons du livre, vous faites l'île dorée par exemple au mois d'août ou pas?
Ah non, je suis pas au courant, j'ai pas été invité. Mais non,
ils sont occupés.
Ils sont occupés. Non, je fais des lectures de mon livre dans des festivals, enfin dans deux, à côté de Nice et je me rappelle plus où. Enfin. Donc ça c'est pas mal. Mes livres c'est un peu autobiographique, ce sont des petites séquences comme ça. J'ai déjà expérimenté avec les gens et il y a beaucoup, les gens rient beaucoup et parfois sont émus. Enfin bon, c'est un peu. Donc voilà. Et puis oui, puis il y a le mystère Sony là qui est tiré de l'affaire Von Bülow, qui avait été accusé. Partie d'une histoire vraie, qui avait été accusé d'avoir tué sa femme et puis finalement qui avait été acquitté. Il y a eu un film célèbre avec Jeremy Irons qui a eu un Oscar avec ce personnage. Et donc c'est ce Von Bülow que je joue qui revient 10 ans après voir son avocat, un soir de Noël. Et l'avocat essaye de savoir si vraiment c'est lui le coupable ou pas. Bon, il n'y arrivera pas. Donc voilà, donc c'est un peu une comédie, ils boivent des coups, ils se racontent un peu, ils parlent d'amour, de filles, de sexe, de carrière, de tout ça, enfin voilà.
C'est Nicolas Briançon l'avocat du coup.
Et c'est Nicolas Briançon qui joue l'avocat et il y a une espèce de synergie entre nous qu'on répète en ce moment et ça se passe très très bien, je suis très content.
Ça se jouera au Théâtre Montparnasse à partir de la rentrée. Est-ce que dans la vision possible, ça serait de ensuite le faire partir en tournée ce spectacle pour que aussi le reste de la France puisse en profiter?
Ah bah oui, il y a une tournée prévue, une tournée signée même. Ça y est.
Ah bah c'est génial.
Oui, alors mais pas tout de suite après, l'année d'après, hein. Voilà.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Qu'est-ce qui vous a séduit en premier dans ce projet justement de théâtre? Comment vous choisissez vos pièces? Parce que vous aimez bien, je sais, le théâtre, mais comment vous les choisissez?
Je choisis. Là, j'ai été attiré par ça parce que depuis 2-3 ans, ou même il y a eu le confinement, mais 4 ans, j'étais dans le burlesque pur et dur, le Phèdre, ce qu'on appelle des comédies de boulevard de qualité, mais plein pot, et j'aime beaucoup ça. Hein. Le rire, j'aime bien quand les choses passent par le rire. Et puis là, c'est une chose un peu plus sérieuse, un peu plus sérieux. Le genre était un peu plus dramatique. Hein, on rira, hein, mais on rit toujours au théâtre, plus ou moins. Donc on est dans une comédie, mais on est plus dans quelque chose de plus grave, de plus. Parfois même un peu désespéré, tout ça. J'avais envie de changer un peu de genre, voilà.
Comment on fait aujourd'hui pour arriver comme vous le faites si bien? De passer du théâtre au cinéma, à la télévision, alors qu'aujourd'hui on a une tendance malheureuse à mettre les gens dans des cases, vous arrivez eh bien, à aller faire des sauts à droite, à gauche, et ça c'est génial pour un comédien de pouvoir justement parcourir tous les mondes que la comédie peut laisser justement.
Oui, oui, c'est un peu l'offre et la demande. Moi je suis même de théâtre avant tout, hein, donc je suis... J'ai commencé par... et puis un peu le cinéma où j'ai... Voilà, je fais des choses à la télévision. Par exemple, vous parliez de l'école de la vie. J'aimais bien le personnage. Et puis Nagui, qui est produit, est un ami. Il m'a demandé. Et puis j'aime bien, j'ai eu du bonheur. Donc ça fait partie aussi du plaisir. Hein.
C'est tellement une belle série en plus.
Et puis là, il y a HPI aussi. Je fais le père d'Audrey Fleurot. Et
elle l'a pas très bien accueillie hein, quand même dans cette troisième saison hein, dans HPI Audrey Fleurot.
Ah ben non, parce que son père est un malfrat, parce que, donc qui fait le roi des embrouilles, etc. Mais je ne vais pas spoiler la fin, mais enfin bon, voilà. Simplement aussi le fait que ça soit c'est une série de qualité qui a un tel succès d'audience, quoi, que évidemment on a envie d'être dans cette aventure-là. Voilà.
Vous avez envie d'y retourner en saison 4 sur HPI si justement ce rôle du père de Audrey Fleurot et de Morgan Alvaro doit être développé justement?
Oui, oui, je pense qu'il en est question. Maintenant, on va voir. Ça dépend un peu. Parce que j'ai des projets au cinéma. J'ai d'autres projets pour France 2. Voilà, tout ça. Et puis, oui, je sais pas. Et puis, bon, je vais écrire un autre bouquin parce que mon bouquin marche. Donc, l'éditeur a. J'ai écrit un scénario auquel UGC s'intéresse. Donc, ça, je veux le développer aussi. Je veux le. Enfin, voilà.
La réalisation? Oui. Ça vous plairait, justement, de refaire?
Oui. Oui, oui, simplement pour la réalisation, faut arrêter tout. Et puis c'est à qui compte. Et moi,
c'est énergivore à mort, ça, pour le coup.
Concentré sur, faut pas faire autre chose. Et moi, j'ai pas eu encore le. Bah, d'abord, il fallait trouver un sujet, une envie, un désir. Hein. Pas faire un film pour faire un film, faut que ça soit une nécessité, un besoin. Et donc là, oui, je suis sur. Voilà, là j'y travaille. Et, ouais, ça, je sais pas si ça sera financièrement, si on y arrivera. Il y a des chances, hein, voilà. Mais, tout ça est en gestation, quoi.
Bon, en tout cas, on sera là, évidemment, pour s'en faire l'écho. Et on va se dire à très bientôt, Patrick. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve à la rentrée au Théâtre Montparnasse, dans le Mystère Sony, aux côtés de Nicolas Briançon, dans une mise en scène de Dominique Guyot, que les fans de Demain nous appartient connaissent bien, ce qu'il réalise souvent, justement, du côté de 7 des épisodes de la série, où il a joué, d'ailleurs, le frère d'Alexandre Brasseur aussi. Et on sait que c'est un metteur en scène brillant, de toute façon, Dominique.
Oui, c'est une pièce d'Alain Tellier, quand même, je voulais le préciser.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, à noter que depuis l'enregistrement de notre émission avec Patrick Chenet, notre interview, eh bien, nous les avons mis en relation avec le Salon du Livre de l'Île de Ré et que Patrick Chenet sera bien présent pour dédicacer son livre pendant les 3 jours du Salon du Livre début août du côté de l'Île de Ré. Donc, allez le voir nombreux. Et puis, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Francis Huster fait son grand retour dans Et si tout commence, sous quelle forme, comment? Eh bien, il va tout nous dire puisque lundi prochain, il sera notre invité exceptionnel. On aura également le plaisir de fêter les 6 ans de Demain nous appartient. 6 ans jour pour jour, lundi prochain pour la dernière de l'émission. Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Hector Langevin, Camille Genoux, encore Raphaël Volkov seront nos invités exceptionnels pour parler de cet anniversaire. Alors vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.